maire, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de suivre Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. L'ambassadeur du Japon en RDC a invité mardi 7 mars dernier les étudiants de l'Institut National des Pratiques Professionnelles de développer l'esprit japonais caractérisé par l'amour d'un travail bien fait dans un esprit d'équipe pour lutter contre le chômage et concourir au développement de la RDC. L'ambassadeur Hiroshi Karube l'a dit au cours d'une conférence débat ce mardi à Kinshasa. Un plaidoyer partagé par le directeur général de l'INPP qui exhorte ses étudiants à s'organiser en équipe comme des jeunes japonais pour créer des micro-projets. Ces plaidoyers relancent les débats sur la problématique du développement de l'entrepreneuriat en RDC. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-63-80, 081-890-49-69 pour vos interventions en direct. Le débat se déroule également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde de cette émission réalisée par Nico Kalamba et Pierrot Elameji. Vous la présente sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Paroles aux Auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Voilà, l'entrepreneuriat au niveau, au centre de notre échange en RDC. Et d'ailleurs, selon la Banque mondiale, le développement de l'Afrique et surtout les pays en voie de développement doivent en principe baser leur développement sur l'entrepreneuriat. Les jeunes, les femmes qui sont aujourd'hui aussi plus considérées et ces plaidoyers de l'ambassadeur du Japon relancent alors le débat sur la problématique de cette question du développement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Et pour en parler, nous recevons dans ces studios ingénieur Thérèse Isaïe Kirongozi, femme entrepreneur. Madame Kirongozi, bonjour.
Bonjour et merci de m'avoir invité chez vous à la Radio Capi.
Et merci aussi de vous être rendu disponible pour Parole aux Auditeurs, pour la population au-delà de vos multiples occupations en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est facile d'être entrepreneur?
Bon, en fait, pour moi, je peux répondre, quand tu aimes quelque chose, la chose vient toujours facile. Pour moi, être entrepreneur, c'est quelque chose de passion, d'inné, mais il faut le développer. Tu peux naître entrepreneur, mais si tu n'arrives pas à développer, avoir le bon sens du courage d'aller de l'avant, tu vas rester quelque part. Mmh. Donc, les autres vont faire leur pas en avance.
Mmh. Mais comment se présente aujourd'hui l'entrepreneuriat dans notre pays? Est-ce que les gens aiment, est-ce que les gens vont vers l'entrepreneuriat ou dans notre pays, la tendance, c'est de rester scotché à son travail pour être éternellement employé?
En fait, vous venez de dire une chose très capitale au début, là, à l'introduction, pour dire que l'entrepreneuriat, c'est le soubassement du développement. On ne peut pas compter seulement pour le gouvernement ou les entreprises publiques pour développer le pays. Dans tous les pays du monde, si vous voyez les indices du développement d'un pays, vous allez voir qu'il y a plus d'entrepreneurs. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons un grand souci. Aujourd'hui, si vous demandez le plus grand problème de notre pays, pour moi, ce n'est pas même la politique, parce que on aura toujours nos petits soucis. Le plus grand problème, c'est nous, c'est le manque des entrepreneurs. C'est ça qui fait le frein de notre développement. Vous allez me demander pourquoi. Je vais donner un exemple. Parce que moi, je suis quinoise, c'est là où j'habite, c'est là où je comprends un peu mieux ma ville. Passer dans nos horaires, dans nos communes, vous allez voir qu'il y a plus de jeunes, il y a plus de gens dans des maisons au lieu d'aller travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chômage. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de demandeurs d'emploi parce que dans la ville de Kinshasa, nous pouvons en avoir même plus de 5 millions de demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, nous avons besoin des créateurs d'emplois. Donc, ce sont des entrepreneurs qu'aujourd'hui, le pays en a besoin pour développer le pays. Le pays ne peut pas se développer sans les idées Donc, chacun selon son secteur, mais il faut des nouvelles idées qui permettent à chacun de trouver. Moi, si j'ai 10 travailleurs, vous en avez 20, et là-bas, on a 30, et c'est comme ça qu'il va faire qu'on arrive à résoudre le problème du chômage dans notre pays.
Voilà. Mais alors, quelle est la place aujourd'hui qu'occupe l'État dans cette question d'entrepreneuriat? Est-ce que l'État a un rôle quand même à jouer pour arriver à promouvoir l'entrepreneuriat?
L'État a un très grand rôle à jouer. Je peux vous dire, l'État c'est le plus grand acheteur du pays. Dans tous les pays qui sont avancés, vous allez remarquer qu'il y a plus. Je donne un exemple, parlons des États-Unis. C'est un pays, les Américains n'ont pas eu l'argent pour aller peut-être vivre à l'étranger. C'est l'État américain qui a donné l'argent parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Je peux vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, en prenant l'exemple, si je ne vais pas parler de moi, parce qu'on va dire, tu vas parler toujours du robot, mais je prends un exemple. Pourquoi je dis, notre gouvernement doit être d'abord le premier acheteur de nos produits locaux. Je prends un exemple de maman maraîchère. Aujourd'hui, qui peut faire manger plus de 1000 personnes, je donne un exemple, l'État a la police, l'État a de militaires qui le fait manger chaque jour au nombre de 1000, 2000. Si l'État motive des mamans maraîchères pour dire que bon, je prends pour exemple des mamans des quartiers 8 ou des Sekomaf, pendant 3 mois, nous allons acheter vos légumes, tout ce qui est matembe, les pondou, on va à s'approvisionner chez vous. C'est comme ça que, nous vous donnons nos critères, nous voulons que des légumes soient comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme ça qui va permettre aux mamans là de faire les efforts parce qu'il sait que le gouvernement doit acheter et il va avoir de l'argent. Je prends un autre exemple. On prend un exemple d'un tailleur que moi je connais ici à Kinshasa, au Kassol, qui fabrique très bien les habits. Si le gouvernement lui donne même une commande de dire que non, s'il y a possibilité de fabriquer peut-être 2000, 3000 tenues pour nos policiers. Vous voyez, c'est comme ça les entreprises. Voilà pourquoi j'ai dit que notre gouvernement doit savoir son rôle. Il est là pour deux rôles, d'après moi. Le premier rôle, c'est d'abord qu'il doit être le plus grand acheteur de nos produits locaux. C'est là qu'il va booster quand même les entrepreneurs d'avoir beaucoup de moyens. Il n'est pas là seulement pour que nous, on le donne l'argent pour les impôts, le TVA, mais il doit aussi
acheter,
encourager,
faciliter,
c'est ça, à aider, motiver.
Voilà. Mais vous qui êtes sur terrain, vous avez des jeunes qui vous encadrez. Est-ce que l'esprit d'entrepreneuriat se développe aussi aujourd'hui au niveau de la jeunesse? Parce que là, l'ambassadeur souhaite que les jeunes puissent avoir ce modèle des jeunes japonais. Faudrait-il seulement lancer le souhait où il faut avoir des jeunes qui s'intéressent et les encadrer pour les amener sur ce terrain de l'entrepreneuriat?
Écoutez, à 2000, si je ne me trompe pas, à 2013 ou 2012, j'avais fait une foire des génies créateurs de notre ville. C'est-à-dire, j'ai pris des jeunes qui ont l'esprit de la créativité. Chacun a amené son prototype de produit. Nous avons même invité aussi les hommes d'affaires. Nous avons invité des membres de FEC, même des membres du gouvernement, pour le faire voir que non, dans tous les pays du monde, l'industrialisation, ça se naisse. Moi, j'ai les idées. Vous avez moyens. Associons-nous pour faire quelque chose. Mais je peux vous dire, moi, je suis sorti avec le robot, avec le projet là. Mais combien de jeunes jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas motivés. Et ils passent à la télé avec leur innovation, mais personne n'encourage. Ça commence à décourager parce que si vous voyez que les gens ont fait, ils ne sont pas appuyés, même.
Ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas accompagnés.
Accompagnés. Donc voilà. Moi, je crois que c'est le rôle de l'État d'encourager, de regarder. Je peux vous dire, même pas hier, j'étais en contact avec un jeune Congolais qui habite à San Francisco. Il travaille à la NASA. Donc, il fabrique des satellites, des mini-satellites, des faisceaux spatials. Vous imaginez un jeune comme ça, de nationalité congolaise. Si le gouvernement il sait bien regarder les gens, parce que ça c'est le rôle du gouvernement aussi, de savoir chercher des entrepreneurs, de savoir motiver les entrepreneurs, de savoir chercher quels sont des jeunes que nous pouvons encourager. Moi je regrette, nous venons d'avoir un premier ministre comme Monsieur Matata qui a eu 5 ans au pouvoir. Il a beaucoup travaillé, mais le problème que moi je regrette, il n'a pas su bien travailler sur l'entrepreneuriat des jeunes. On ne peut pas faire avancer le pays si on n'arrive pas à encourager, à motiver le modèle que nous sommes. Je peux donner un exemple de moi-même avec le robot. Jusqu'à aujourd'hui, pour faire la maintenance de machines, c'est tout un problème parce que je ne suis pas accompagné au niveau du gouvernement. Mais c'est très grave. Et comment les autres peuvent arriver à dire, bon, si toi tu as fait le robot, je vois qu'on t'accompagne, tu es motivé, et moi aussi je peux fabriquer quelque chose, ben voilà.
Voilà. Donc, on va revenir à vous, le temps d'écouter aussi les auditeurs, les débats, il est très intéressant, comment arriver aujourd'hui à promouvoir l'entrepreneuriat dans notre pays. 081-890-63-80 et 081-891-49-69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Mais n'oubliez pas que les débats s'étiennent également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Radio Okapi.
À Walikale, Okapi. Sur 104.9 FM.
Okapi.
Voilà, nous avons Amos qui nous appelle de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Amos, bonjour et bienvenue dans Parole aux Auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à tout le monde qui suit la radio Okapi, mais aussi bonjour à l'invité au studio.
Mm-hmm.
En fait, nous avons tous suivi ce plaidoyer qui a été fait par l'ambassadeur du Japon. Mais nous pensons que apparemment l'ambassadeur n'a pas bien analysé la situation. Parce que ce que moi je ne parviens pas à comprendre valablement, le fait de comparer le Japon à la RDC. Tout le monde sait combien le Japon est développé. Nul n'ignore que le développement émane d'abord de la bonne politique qui s'observe au niveau du pays. Il est vrai que comme je viens de suivre l'invité au studio, au Congo, le chômage est à un niveau là de criant, jusqu'au point où le chef de l'État lui-même a reconnu 84% du chômage. Mais ça va au-delà de ça, parce que si on essaie de voir la réalité qui y a sur le terrain, on peut parvenir à comprendre que même le chômage dépasse plus de 95% aujourd'hui au Congo. Mais cela n'est pas dit qu'au Congo, il n'y a pas de jeunes qui ont l'esprit créateur, qui se poumonnent pour quand même créer des petites entreprises pouvant mettre fin au chômage. Mais où résident les problèmes au Congo? Le problème, c'est au niveau de la politique. Heureusement, l'invité venait d'évoquer le même cas. C'est la politique qui tue au pays, qui tue au pays, parce que vous n'allez pas comprendre quelqu'un aujourd'hui qui parvient à créer une petite entreprise seulement de fabrication de beignets. Mais à cause des tracasseries des agents de l'État, à cause des surtaxations, il parvient à fermer son entreprise, et cela au détriment de toute la jeunesse. Voilà pourquoi moi je me dis, moi je pense que l'ambassadeur du Japon devait d'abord voir comment plaider en faveur d'une bonne politique au pays. Parce que tant que nous aurons un leadership qui n'est pas soucié du bien-être de la population congolaise, tant que nous aurons des dirigeants qui nous servent comme des mercenaires, qui ont leurs priorités ailleurs, vraiment tout ce que nous pouvons avoir comme esprit de créativité, cela ne peut rien produire en faveur des Congolais. Au Congo, nous avons des jeunes qui ont beaucoup étudié dans divers domaines, qui ont de l'expérience, et quand ils arrivent ailleurs dans d'autres pays, vraiment les Congolais prouvent de quoi il est capable. Mais dans notre pays, vous allez comprendre que
ce que vous dites, c'est très important. Quand vous insistez sur la vision politique qu'on doit avoir dans le développement des idées de la jeunesse, et ça c'est important, mais quelque part vous avez aussi évoqué les tracasseries administratives sur taxation. Ce sont des choses qui font aujourd'hui que des entrepreneurs soient freinés. On pourra voir cela avec notre invité, mais d'autres personnes aussi qui ont eu l'expérience dans l'entrepreneuriat et qui pensent qu'il y a des tracasseries et des surtaxations qui sont aujourd'hui un frein au développement de l'entrepreneuriat, peuvent nous appeler. Alors, on appelle Patrick, nous appelle de Mbandaka, c'est lui plutôt qui nous a contacté. Patrick, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs.
Patrick, comment on peut arriver aujourd'hui à promouvoir et développer l'entrepreneuriat dans notre pays?
Avant tout, je salue infiniment l'idée de l'ambassadeur japonais, laquelle nous est plus à l'auto-prise en charge, car l'État congolais s'avère aujourd'hui démissionnaire en ce qui concerne la création de nouveaux emplois. Monsieur JR, vous savez aujourd'hui, la problématique de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo repose sur trois principaux facteurs dont nous synthétisons dans notre analyse. Primo, c'est sur le plan d'investissement public. Secondo, c'est sur le plan de financement. Et tertio, c'est sur le plan de l'individualisme d'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Le premier point dont nous faisons allusion ici, c'est l'investissement public. Vous savez, dans le pays développé, l'État procède à la création d'emplois indirects. Comment les États font ? Les États investissent publiquement, à l'occurrence des constructions de routes qui peuvent les appeler aux investisseurs privés de pouvoir booster le secteur d'agriculture. Puisqu'on sait bien, avec la construction de routes et de celles agricoles, cela va permettre, n'est-ce pas, aux producteurs de biens agricoles de pouvoir bien évacuer les produits et les vendre facilement.
Mais oui, s'il vous plaît, Patrick. Patrick, si on peut d'abord. Oui, Patrick, si on peut d'abord relancer par rapport à la première préoccupation. Vous avez donné l'exemple aujourd'hui hein, dans le domaine des infrastructures routières. Mais pensez-vous aujourd'hui qu'on ait des entrepreneurs congolais ou soit des entreprises congolaises qui ont l'expertise nécessaire, qui peuvent recevoir les capitaux de l'État pour les travaux des routes, par exemple les routes des essais agricoles. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y ait une expertise congolaise capable de pouvoir être financée pour faire ce genre de travaux, Patrick?
Vous savez, là, ici, donc, l'idée de l'auteur qui s'appelle John Lemakens, hein, qui dit l'investissement public fait appel aux investissements induits. Lorsqu'aujourd'hui, la population ou les populations congolaises trouvent que toutes sont bien entretenues, je vous dis, ils vont faire, n'est-ce pas, de l'espoir de pouvoir démontrer leur ingénierie en domaine d'agriculture. Si nous laissons le domaine d'agriculture, encore le domaine des constructions de barrages. Vous savez, aujourd'hui, dans un état, on ne peut pas se développer toutefois pouvoir avoir de l'énergie. Mais dans une ville telle que la ville de Mbandaka, où il n'y a pas d'énergie, comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, dire aux étudiants ou aux jeunes licenciés qui ne sont pas, n'est-ce pas, capables de l'entrepreneuriat?
Voilà, et là, c'est important ce que vous avez ajouté, Patrick, l'absence de l'énergie qui est un frein aujourd'hui au développement de l'entrepreneuriat. Mais vous estimez que si l'État peut disponibiliser le financement pour de micro-projets, ça va aussi booster l'ingéniosité, comme vous l'avez dit, des Congolais qui vont se mettre au travail parce qu'ils savent qu'ils pourront être soutenus par le pouvoir public. Merci beaucoup Patrick et Galvani. Vous êtes avec nous de Mbujimayi, au Kasaï Oriental. Bonjour Galvani.
Et bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auteurs de Radio Kati.
On vous écoute.
Merci pour la parole. Bon, d'abord, je salue l'idée ou le plaidoyer de l'ambassadeur japonais. Parce qu'aujourd'hui, la problématique du développement de l'entrepreneuriat en RDC est vraiment un grand problème qui se pose avec à côté. Parce que, d'emblée, je vais dire qu'aujourd'hui, il est avéré et prouvé que l'État, aujourd'hui, n'a plus le monopole du social. L'État doit se faire accompagner par les privés pour l'amélioration des conditions de vie de sa population. Ainsi, pour y arriver, il y a quelques préalables dont l'État doit mettre en place pour inciter à la culture entrepreneuriale de sa population. Premièrement aussi, je vais toucher dans les deux aspects. Nous avons d'abord commencé par le programme de l'enseignement. C'est vrai qu'il y a l'éducation entrepreneuriale, il y a aussi certaines personnes qui sont innées, donc qui sont nées avec l'esprit entrepreneurial. Il y a d'autres qui l'acquièrent à partir des études qu'ils ont faites. Alors tout ça, l'État doit aussi améliorer d'abord le programme de l'enseignement qui n'est pas adapté, qui n'incite pas le jeune à créer des emplois, mais qui le pousse juste à être demandeur d'emploi. Ça, c'est le premier problème, mais le premier préalable dont l'État doit avoir pour booster ou faciliter le développement de l'entrepreneuriat dans le pays. Deuxièmement, l'État doit faciliter le climat des affaires. C'est vrai. Moi, je suis contre ceux qui disent que non, les Congolais ne sont pas des entrepreneurs. C'est faux. Les Congolais sont des entrepreneurs. Parce que malheureusement, c'est le climat des affaires au Congo qui asphyxie toutes les initiatives que nous mettons en place. Donc, avec les tracasseries fiscales et parafiscales, donc, toutes les idées que nous lançons, une idée sur place, l'État vient les toucher. L'État n'a pas un système d'accompagnement, de pour accompagner. Or, aujourd'hui, ce sont les entreprises privées, les entreprises privées qui doivent créer l'emploi. L'État ne crée plus l'emploi. Ça, c'est un secret des polichinelles. Donc c'est l'État qui doit inciter la politique à plein donc
Et là, Galvani, vous avez rejoint Amos qui parlait tout à l'heure d'une absence de politique claire hein, dans le développement de l'entrepreneuriat. Mais le problème du programme de l'éducation, c'est important. Beaucoup de gens sont revenus là-dessus. Il faut qu'on ait un programme qui incite à la création d'emplois plutôt que former des gens qui vont éternellement demeurer des demandeurs d'emploi. Mais il faut aussi que l'État facilite l'amélioration du climat des affaires. C'est de cette façon qu'on peut arriver à développer l'entrepreneuriat. Alors, nous allons retourner ici à Kinshasa. Félicien, vous êtes un entrepreneur. Pensez-vous aujourd'hui que beaucoup d'efforts ont été fournis parce qu'il y a eu même une agence qui a été créée, un service de l'État pour l'assainissement du climat des affaires. Galvani vient de l'évoquer, le programme scolaire qui n'est pas approprié pour créer des emplois, mais la question de l'amélioration du climat des affaires, vous qui êtes sur terrain, Félicien, bonjour. Quelle est la situation aujourd'hui qui peut aujourd'hui favoriser l'entrepreneuriat dans notre pays? Félicien, vous êtes avec nous? Félicien, pourriez-vous diminuer le volume de votre récepteur? Comme ça, on pourra communiquer sans problème. En attendant que Félicien soit prêt, nous restons à Kinshasa avec Sylvain. Merci Sylvain de nous avoir contactés. Vous avez suivi ces plaidoyers de Galvani qui estime qu'au-delà du souhait exprimé par l'ambassadeur du Japon, mais la grande question aujourd'hui, c'est le programme scolaire, mais aussi l'amélioration du climat des affaires. Quel est votre point de vue, Sylvain? Bonjour.
Oui, bonjour Radio Capi. Bonjour à votre invité. Je suis même d'avis avec mon prédécesseur. Il a dit quelque chose de vrai. Le programme de l'enseignement doit aussi être adapté. Mais du moins, il y a aussi un autre problème que je pouvais abonder dans ce même sens-là. Vous savez, sous d'autres essais, le travail des étudiants qui terminent des cycles doivent être des sujets qui abordent les questions d'actualité. Où les gouvernants pouvaient même s'en servir pour voir comment orienter ces politiques dans ces différents domaines. Mais ici, je pense que nous avons beaucoup de mémoires qui ont été écrites mais qui n'ont jamais été exploités par le gouvernement. Je pense que là aussi, c'est un autre problème, alors. Donc, on voit comme si nous, on étudie pour ne pas bénéficier du fruit de nos études. C'est un peu une difficulté. Alors, par rapport à mon commentaire, je pense avoir dit que le point de vue de l'ambassadeur japonais, c'est une bonne chose, même celui de l'ADG de l'INPP, c'est une bonne chose. Mais ce que je crains, moi, je ne sais pas quelles sont les conditions de garantie, parce qu'aujourd'hui, financer quelqu'un, on doit avoir des garanties. Pour une banque, peut-être, il faut que la personne qui demande le crédit ou le financement doit être propriétaire d'une parcelle, il doit avoir le statut de commerçant. Alors, ce sont ça les garanties. Mais aujourd'hui, quand on devra financer, quelles seront les garanties? Ne risquera-t-on pas d'entrer dans le même risque, dans le même avantage qu'on a vu avec le FPI en passant même vers la NAPI? Vous verrez que ce sont des politiques, lorsqu'il y a des financements comme ça, ils préparent des structures fantômes, des gens qui sont proches d'eux. Or, il y a des gens qui méritent. D'où la même moi qui vous dis. J'ai des projets d'articles à publier. Mais parce qu'il n'y a pas d'argent, il y a personne à le soutenir, il est difficile. Des fonds comme ça, lorsqu'ils tombent, vous verrez, ce sont des politiques qui s'en accaparent, ils créent leur propre structure, leur proche. Alors, au lieu de...
Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. Vous estimez que l'adaptation du programme scolaire, mais aussi... C'est les travaux des mémoires, tout ça, les mémoires, les travaux de fin de cycle, tout ceci pouvait être, l'État pouvait s'en servir ailleurs, comme vous l'avez dit, l'État finance même ses étudiants et il se sert de ses projets, il les finance. À RDC, le problème c'est aussi ça, l'accès aux capitaux, ça pose un problème, l'accès au crédit bancaire. Mais quand il y a des structures comme le FPI, où on a eu plusieurs débats autour de cette question, qui vont s'en servir au FPI, tout ça, est-ce que ce sont des vrais entrepreneurs? Beaucoup de politiciens se sont retrouvés dedans. Bon, on pense qu'avec le temps, ça pourra s'améliorer. Merci beaucoup. 081-890-63-80, 081-890-49-69 pour intervenir en direct. Félicien et Omar, vous gardez la ligne, on va revenir à vous, le temps d'écouter notre invité.
Lorsque le jour se lève, toutes les provinces se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. synthèse de l'actualité africaine et internationale, revue de la presse quinoise, toutes les infos s'écoutent entre 5 et 9 heures. Le meilleur de l'actualité sportive chaque demi-heure, des reportages qui vous donnent la parole, des infos pratiques et de la musique qui réveille. Lorsque le jour se lève, dès 5 heures, Radio Kapi met le Congo à la une.
Madame Marie-Thérèse, ingénieur Thérèse Isaïe Kirongozi, merci d'être avec nous, femme entrepreneur. Les auditeurs ont presque ramassé l'ensemble des problèmes qui se posent aujourd'hui dans le secteur. Votre réaction?
Avant d'abord de faire ma synthèse sur la réaction de nos auditeurs, je voulais d'abord donner une information. Je crois peut-être vous êtes aussi au courant de ça. Il y a la magazine Forbes qui a publié l'année dernière les hommes les plus riches de l'Afrique subsaharienne, plus dans des zones francophones. Le premier riche dans la zone francophone, c'est un Camerounais d'origine et de nationalité. Le deuxième riche de l'Afrique francophone, c'est un sujet congolais de nationalité, c'est Monsieur Malte Forest, mais d'origine belge. Le troisième, c'est un Camerounais encore, d'origine camerounais, de nationalité camerounaise. Mais le quatrième, c'est un Congolais d'origine indien, mais de nationalité congolaise. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a un souci. Le Congo a des potentiels, mais au moins nous-mêmes, je n'ai pas un problème avec les étrangers qui veulent investir dans notre pays. Mais néanmoins, si nous voulons avoir des fondements, des plateformes solides, il faut d'abord que nous, les Congolais, qu'on arrive à avoir notre place. C'est quand même une bonne honte parce que quand on voit ce n'est pas qu'il n'y a pas des investisseurs étrangers au Cameroun. Mais pourquoi les Camerounais d'origine et de nationalité sont plus devant et chez nous, ce sont les étrangers d'origine? Donc, je ne fais pas ça un souci pour vous faire voir que non, nous-mêmes, des Congolais, nous avons encore beaucoup de choses à faire sur l'entrepreneuriat. Alors, par rapport à la synthèse, moi, je suis ingénieur de formation, j'ai fait l'ISTA. Je peux vous donner un exemple. On dit ça à tout moment. Vraiment, je salue la dernière personne qui vient d'intervenir sur le mémoire de travail de fin d'études. Moi, j'ai fait 2 mois au Japon en formation. Je vis comment le jour de... du jury, comment il y a des entreprises qui se précipitent pour venir écouter ou savoir qu'est-ce que les étudiants vont parler dans leur projet, que ça soit dans la télécommunication, en médecine, dans plusieurs secteurs, parce qu'ils savent que par là on peut dépocher quand même des jeunes qui ont plus de créativité ou d'innovation pour peut-être faire encore un plus dans notre entreprise. Mais le cas contraire chez nous, aujourd'hui, même si vous avez distingué dans votre travail de fin d'études, mais il y a beaucoup de jeunes, moi je connais, ils ont même distingué, mais ils sont toujours des chômeurs. Ils ont même des esprits de créativité, mais qui peut l'encourager? Voilà pourquoi moi, je remets toujours la balle au gouvernement congolais de changer sa politique, de chercher d'abord à encourager de modèles, parce qu'il peut pas tout faire. Et de susciter même le gêne pour aller, parce que on ne peut jamais passer dans d'autres systèmes pour le développement de notre pays. C'est rien que sur l'entrepreneuriat. Moi, je parle de l'entrepreneuriat, pas l'entrepreneuriat féminin ou quoi, mais je parle en termes d'entrepreneur. Que ça soit femme, homme, jeune, nous devons... Je donne un exemple. Bill Gates, c'est l'homme le plus riche du monde. Il a pris son argent dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas dans la politique. Aujourd'hui, même si vous remarquez, les jeunes commencent plus à avoir la tendance d'aller faire la politique parce que
c'est là où on se retrouve.
C'est un métier moyens, facile. Voilà. Il faut savoir faire d'éloquence, avoir peut-être votre parapluie et puis voilà, ça se passe.
Mais il y a un autre ami Galvani qui a insisté sur l'amélioration des climats des affaires. Et vous qui êtes sur terrain, c'est les témoignages qu'on va demander tout à l'heure aussi à Félicien. Pensez-vous aujourd'hui que beaucoup d'efforts ont été fournis dans l'amélioration des climats des affaires pour encourager les Congolais à pouvoir investir?
En fait, il y a un parallélisme. Des fois, moi, je suis entrepreneur congolaise. Nous voyons ce qu'ils nous disent et ce qui est dans la matérialisation, c'est-à-dire du concret. C'est deux mondes différents. Mais nous faisons toujours ces plaidoiries pour dire que non, l'État congolais doit vraiment améliorer ses climats d'affaires sur l'histoire des impôts. Il y a l'environnement qui vient, l'hygiène qui vient. Est-ce qu'on ne peut pas mélanger tout ça? On appelle ça l'environnement. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, les entrepreneurs ne savent même pas combien de taxes nous allons payer annuellement? Il y a plusieurs secteurs qui viennent chacun avec... une fois, j'étais même étonné de voir que même le ministère de l'Intérieur a des taxes. Donc, voilà un peu de choses comme ça. Mm-hmm. Par contre, si nous arrivons à améliorer un peu le système, mm-hmm. ça va quand même encourager aussi des entrepreneurs qui sont déjà là pour ne pas dépenser beaucoup de moyens sur...
Et les dangers avec le trafic d'influence, le danger avec le climat des affaires, c'est qu'il y a le trafic d'influence. Et de plus en plus, les Congolais disent, voilà, ce sont des étrangers qu'on laisse libres investir, et parce que eux, des fois, on les craint, on les pourchasse pas, on ne les tracasse pas, et comme ça, les Congolais se résignent sur eux-mêmes, ils ne peuvent pas aujourd'hui s'engager. Dommage.
Eh ben non. Moi, je crois ça, ce sont des complexes. Parce que ça soit un étranger ou un Congolais, mm-hmm. quand vous êtes dans les affaires, il faut créer votre réseau. Les réseaux, c'est aussi quelque chose de très capital dans les affaires. Parce que on cherche plus, et il y a même un auditeur qui vient de dire ça, nous-mêmes, on cherche à évoluer aussi indépendamment. Donc, voilà, on est un peu solitaire. Or,
il faut se constituer en coopérative.
En coopérative,
voilà.
Dans un réseau. Et puis, voilà, parce que moi... quand je suis allée dans le réseau de femmes entrepreneurs, bon, moi, je me disais, moi, je suis ingénieure, mes amis sont des hommes et consorts, mais au moins, des femmes, là, m'ont appris quand même quelque chose que moi, je ne connaissais pas. Donc, voilà un peu
de cette façon-là, voilà. Et on va écouter Félicien directement. Félicien, comme je le disais tout à l'heure, on a eu des petits soucis sur votre ligne. Vous êtes dans l'entrepreneuriat, dans des différentes activités. La question de l'amélioration du climat des affaires, comment l'État aujourd'hui peut-il accompagner les entrepreneurs pour développer ce secteur, hein, qui est le moteur, il faut qu'on les dise, du développement de chaque pays aujourd'hui. Bonjour Félicien.
Bonjour Pierrot, et bonjour à tous les invités de Radio Capi et bonjour à madame et l'invité de Radio Capi.
Mm-hmm. Bonjour.
On vous écoute.
Moi je vais commencer par dire que son excellence l'ambassadeur du Japon a raison d'inciter notre jeunesse à imiter la jeunesse du Japon. Mais moi, je voudrais lui demander de donner les mêmes conditions de vie, les mêmes conditions d'études et de travail à nos jeunes. Et il verra les mêmes facilités aussi. Et il verra que les jeunes gens de ce pays peuvent être meilleurs que les Japonais. Parce que il devrait commencer par se demander lui-même comment est-ce que les Japonais peuvent être préoccupés à construire l'INPP, à équiper l'INPP, mais le gouvernement de notre pays n'en fait pas cas. Il peut même pas donner la gratuité à ces gens qui font la technique. Or, la technique, c'est le développement. Et si on ne peut pas donner la gratuité pour toutes les sections et pour toutes les écoles, mais on pouvait donner à ces gens-là quand même. Mais ils étudient difficilement avec... Les parents pauvres qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de travail. Et puis, vous allez leur demander de se regrouper pour faire quelque chose. Mais l'entrepreneuriat sans moyens, il ne suffit pas d'avoir la volonté, d'avoir la compétence, les connaissances, mais il faut avoir aussi les moyens. Mm-hmm. Mais quelles sont les facilités que notre pays donne à la jeunesse? Quelles sont les facilités que notre pays donne? Il n'y a pas de microcrédit, il n'y a rien. Et quand vous passez maintenant, vous avez créé, malgré vous, avec toutes les difficultés, créé quelque chose. Mais ceux qui sont passés avant moi vous ont dit comment ici on vit sous la tracasserie des fisques, des taxes, des impôts. Et tout le monde veut la corruption partout. Mais ces jeunes gens-là, ils sont vraiment bloqués par ceux-là même qui devraient les aider à faire quelque chose pour leur pays. Ils apprennent, il n'y a pas quelqu'un pour les embaucher, ils n'ont pas les moyens d'entreprendre quelque chose par eux-mêmes, mais la faute c'est toujours les jeunes, ils ne veulent rien faire, ils ne veulent rien faire, alors que ces jeunes ont besoin d'être encadrés. C'est là où moi je dis que, est-ce que vraiment le gouvernement qui se succède, ils travaillent pour le pays ou bien pour eux-mêmes, pour ne pas connaître aussi des choses simples et faciles que tout le monde connaît, que ici dans ce pays, il n'est pas facile d'entreprendre quelque chose, vous serez bloqué quelque part, parce que si vous ne savez pas coopérer, c'est-à-dire que négocier avec les agents de fisc, on viendra toujours mettre la clé sur la paillasse. Et mais quand vous avez, quand vous êtes négociant, vous avez accepté de leur donner quelque chose, il n'y a plus de menaces et ils rentrent. Et rien n'entre dans la caisse de l'État. Et nous vivons ça au jour le jour. Dans un pays où la corruption est devenue.
Et là, Félicien, ça demande vraiment, qu'il y ait un sursaut de réveil quand même, hein, au niveau de la conscience politique. Parce que vous l'avez dit, ces jeunes Congolais sont capables, l'ensemble de la population congolaise, de faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que quels sont, le problème des conditions d'études aujourd'hui, l'environnement dans lequel ces jeunes évoluent. Il n'y a pas de moyens. On peut avoir toutes les idées, toutes les compétences possibles. On n'a pas accès aux capitaux, aux microcrédits. Et voilà autant de questions. Quand on mélange à tout cela, vous l'avez dit, le trafic d'influence ainsi que la corruption. Mais la clé réside dans la conscience politique aujourd'hui pour résoudre et arriver à soutenir cette question de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Félicien Omar. Vous êtes aussi à Kinshasa. Merci d'être avec nous. Bonjour. Omar, vous êtes avec nous. Bonjour. Il y a des petits soucis avec la ligne d'Omar. On fait un bond à Kisangani. Ingénieur Battier, vous nous avez rejoint au cours de cette émission consacrée à l'entrepreneuriat. Pour vous, comment on peut arriver à promouvoir et développer l'entrepreneuriat dans notre pays? Bonjour, ingénieur Battier. Ingénieur Battier, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà, là on a eu des petits soucis avec Omar de Kinshasa, ingénieur Battier de Kisangani. Si vous pouvez diminuer votre volume, s'il vous plaît, je crois que ça va. C'est avec Maître Sonville, vous êtes avec nous. Pourriez-vous diminuer le volume de votre poste récepteur, comme ça on pourra communiquer bien sans problème. Oui. Bonjour.
Oui, mais... j'ai déjà diminué, monsieur.
Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Comment, dans les Katanga, par exemple, on peut dire la grande province aujourd'hui, comment on peut arriver à promouvoir l'entrepreneuriat? Pour comme socle du développement.
Oui, en tout cas, Monsieur Pierrot, je commence d'abord par vous saluer et saluer aussi tous les auditeurs de Radio Capi. Mm-hmm. Par rapport à l'entrepreneuriat, il y a des sérieux problèmes. Et à ce moment-là, moi, je me joins aux allégations du ministre japonais et de l'ambassadeur japonais, parce qu'il faut adapter le programme selon les besoins. Mais si chez nous, des fois, nous n'avons que l'ancien programme-là, qui est inadapté aux réalités d'aujourd'hui. Au-delà de ça, ici au Katanga, le gouvernement provincial devrait quand même booster le moral des jeunes en leur octroyant des marchés. Or, nous savons comment s'est fait la passation des marchés publics ici au Katanga d'une manière là isolée. En tout cas, monsieur, il n'y a pas d'appui dans les jeunes, il n'y a pas d'appui financier, il n'y a rien qui est fait pour essayer un peu d'entretenir les jeunes qui ont de bonnes initiatives. Or, nous avons des ministères qui sont représentés au niveau de la province, entre le ministère des petites et moyennes entreprises. Nous avons même le fonds de promotion de l'industrie, monsieur Pierrot, qui devait mettre du paquet à la disposition de ces jeunes pour tout un peu améliorer leurs conditions de vie, pour qu'ils puissent créer des emplois. Mais malheureusement, rien n'est fait. Rien n'est fait. Toutes les initiatives privées sont prises en compte. Et s'il s'agit d'aider quand même certains certaines initiatives, on fait la sélection, le tribalisme, le clientélisme, tout ça, ceux qui n'en ont pas. Et monsieur Pierrot, vous êtes pas ignoré avec moi qu'il y avait eu quand même des tests qui étaient passés pour les PDG, parce qu'on devait rajeunir les directions, les grandes directions des entreprises publiques. Mais quelle est la leçon qui a été encore réservée à ces tests? Or, c'était pour encourager aussi la jeunesse de se retrouver. Mais néanmoins, nous estimons que la jeunesse est abandonnée à son triste sort. Maintenant, nous vivons l'informel. Vous pouvez apprendre aujourd'hui les droits, vous vous retrouvez à vendeur de pièces de rechange de. Vous pouvez faire la médecine, vous vous retrouvez journaliste. Ça veut dire rien ne va. Le pays, c'est comme si le gouvernement est démissionnaire. Même le gouvernement professionnel, il est démissionnaire par rapport à ses prérogatives.
À ses prérogatives d'encadrer les jeunes.
Au-delà de ça, il y a la suppression de la bourse. Aujourd'hui, si on parle des étudiants japonais, des étudiants américains, des étudiants sud-africains, parce qu'il y a la bourse, cette bourse-là, essaie un peu d'améliorer les conditions de certains étudiants qui sont des familles pauvres. Et maintenant, la suppression de la bourse. Comment est-ce que les familles démunies peuvent se retrouver en ce qui concerne l'exploitation de leurs talents? tout un problème.
Ça dit qu'il y a la situation, il faut repenser toute la situation dans sa globalité. Madame ingénieure Thérèse Isaïe Kourongozi, Maître Sonville vient d'évoquer tout à l'heure le rôle du ministère des petites et moyennes entreprises, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, quand vous vous retrouvez dans les réseaux, ces ministères vous accompagnent-ils, soutiennent-ils aujourd'hui ce que les entrepreneurs font aujourd'hui?
Sincèrement, moi, je parle peut-être du gouvernement sortant, parce que j'avais vu le ministre Bongo venir quand même dans notre laboratoire de Fortune, là où nous fabriquons des robots. Il a vu comment artisanalement nous fabriquons des robots. Il nous a quand même encouragés et il a fait quand même des plaidoiries, parce qu'il m'avait aussi mis en copie de la lettre pour demander au gouvernement central, parce que lui n'avait pas de moyens, au premier ministre de nous encourager. Et jusqu'aujourd'hui, la lettre, on n'a pas encore eu de suite sur ça, mais espérons qu'il y aura toutefois une suite. Mais on m'a appris, parce que moi aussi, je suis pas politique, donc on m'a appris quand même qu'il y avait des fonds qu'on a alloué par rapport aux petites et moyennes entreprises qui se trouvent, qui est logé dans quelques banques de notre pays. Mais des concrets, le problème c'est quoi ici? Quand nous parlons de nos théories et de voir la matérialisation, parce que il faut faire le bilan. Moi, je vais vraiment demander à la présidente au président plutôt de la République de demander quand même au gouvernement sortant de faire du bilan des matériels. Qui sont les entrepreneurs du concret qu'on les a dotés de moyens et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Et du concret, on va voir, parce que peut-être s'il y en avait, excusez-moi peut-être de parler de M. Matata, parce que c'est lui qui était le chef du gouvernement, combien de classes moyennes il a fabriqué au Congo? Parce que c'est ça le problème. Il a fabriqué combien de classes moyennes? Parce que quand nous parlons de l'entrepreneuriat, c'est ça qui va fabriquer la classe moyenne de jeunes ou de. On va voir quand même que le pays bouge. Mais du concret, ce qui parlait tout le moment de la modernisation et consorts, et du concret, qu'est-ce que les gens ont vu? Moi, je viens, il y a une semaine, si je ne me trompe pas, je viens de la République centrafricaine. Là, on vient d'avoir un contrat clair qu'on doit faire les transferts de la technologie de Kinshasa pour aller fabriquer nos robots, nos feux de signalisation à Bang. Ça, c'est un exemple concret que nous-mêmes, étant qu'entrepreneurs, nous avons quand même boosté nos réseaux pour arriver à le voir. Mais moi, j'attends aussi le gouvernement de m'accompagner. Et ils sont pas encore au courant, je dois leur mettre quand même au courant, mais ils doivent nous encourager. Donc voilà, ce sont des modèles comme ça, du concret que nous voulons voir à Lubumbashi, à Lualaba, Kananga,
et quand on dit que le gouvernement accompagne, que le gouvernement dise voilà, en RDC cette année, exact, on a sorti autant de fonds, exact, qu'on a donné, oui, aux jeunes, ceux qui ont terminé à l'ISTA, voilà, à l'UNIKIM, voilà, qui ont de telles idées, voilà, ouais, la preuve, voilà les résultats. Ouais. Et là, on a sur terrain des micro-entreprises qui comprennent, quelqu'un a engagé, ouais, 10, 20 personnes. Ouais. Et c'est de cette façon qu'on peut arriver à booster le développement. Valérie, vous êtes à Kindu, merci d'être avec nous. Bonjour. Voilà, on a des petits soucis. Voilà. Et là, on a eu une dame qui a pu crier à côté de vous. Si vous pouvez vous éloigner un tout petit peu, Valérie. Alors, comment on peut arriver à promouvoir l'entrepreneuriat selon ce souhait exprimé par l'ambassadeur du Japon?
Oui, l'idée est tout à fait bonne. Je dirais, d'ailleurs, j'encouragerais, je féliciterais ma collègue ingénieure de l'ISTA. Nous avons tous étudié. Moi, c'est là où j'ai fait électromécanique. L'ambassadeur a dit quelque chose de pertinent. Il s'est arrêté à ce qui est technique. Mais quant aux autres dispositions politiques, ça, l'ambassadeur ne devrait pas les dire. Lui, il a encouragé ce qui est technique. C'est à nous de faire le reste. Alors, l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Je dois dire qu'il n'y a pas que l'entrepreneuriat, ça, il faut préciser, qui doit créer la classe moyenne. Même les grandes entreprises, lorsqu'on paye bien, on rémunère bien les ouvriers, eh bien les ouvriers vont aussi constituer la classe moyenne. Mais ce que je veux encore élaguer une autre pensée. Il n'est pas dit que parce que nous parlons de l'entrepreneuriat, que nous devons décourager le fait d'être travailleurs. Non.
Parce que même celui qui aura créé l'entreprise, en fin de compte, il aura aussi besoin de travailleurs pour travailler chez lui.
Mm-hmm.
Je n'imagine pas que 80 millions de Congolais peuvent être tous des entrepreneurs sans pour autant qu'il y ait des travailleurs. Alors, pour revenir maintenant à la question, l'entrepreneuriat, c'est normal. Mais voilà que, à part la technique, parce que cette formation de l'INPP va renforcer la technicité. D'autant plus que pour mieux réussir dans quelque chose, il faut le connaître. C'est quand on connaît une chose qu'on peut bien évoluer. À ce moment, la connaissance de la chose permet de réfléchir et de la promouvoir. Ça, c'est de un. De deux, qu'est-ce qui va nous empêcher maintenant de réussir l'idée de l'ambassadeur? Il n'y a pas que la politique, j'arriverai à la politique, mais commençons nous-mêmes.
Allez-y rapidement, oui, ingénieur.
Oui, les Congolais, nous ne sommes pas trop crédibles. Ce qui fait que le temps de nous associer, nous aurons à nous méfier les uns des autres. Aujourd'hui, si les gens commencent une entreprise, demain, vous le verrez devant les tribunaux de commerce, les tribunaux de grande instance, en train de se disputer la même entreprise, que non, moi j'avais autant, ainsi de suite. Cette crise de confiance fait que les gens ne puissent pas cohabiter. Vous n'avez qu'à voir l'exemple au niveau de la politique. Deuxièmement, au niveau de la politique, oui, la politique doit accompagner. Ça, c'est tout à fait normal. J'étais en Corée du Sud. Nous sommes allés voir une usine de fabrication de biscuits. J'ai posé la question à ces messieurs, est-ce que le gouvernement vous a accompagné? Il a dit que, au contraire, le gouvernement m'a tout donné. Moi, j'ai amené seulement les projets et le gouvernement m'a donné les montants qu'il fallait pour installer cette entreprise. Une entreprise privée en plus. Vous comprenez que l'accompagnement du gouvernement est très intéressant. Mais lorsque, au niveau de l'accompagnement, il y a les notions telles que effet retour, il y a les notions telles que voilà, on doit appliquer le tribalisme. Il est doux, il est de ceci. Ce sont des choses comme ça qui nous freinent. L'État n'a qu'encourager les gens à travers leur intelligence, à travers leur capacité.
Madame, mais vous l'avez dit, oui, ingénieur Valérie, parce qu'il y a encore, je crois, deux personnes qui doivent s'exprimer, le temps aussi de conclure. Mais dans votre propos, vous avez insisté sur la formation, hein, parce qu'il faudrait quand même qu'on le dise. Madame l'a dit au début, il faut former les gens à l'entrepreneuriat, il faut encadrer les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça, ça doit être organisé au niveau de la société. Et la crédibilité vient aussi du fait que les gens maîtrisent ce qu'ils font. On peut instaurer cette confiance. On va écouter rapidement Radjabou qui est à Kindu, je crois bien, ingénieur Batier qui est à Kisangani. Radjabou, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, monsieur le journaliste. Bonjour à vous et à tous les autres auditeurs.
Voilà, c'était, je crois bien, à côté de vous dans les quartiers où on a entendu ce son aigu. Merci, c'est un plaisir que vous soyez ici dans la population et vous exprimez ici sur cette question de l'entrepreneuriat. On vous écoute, Radjabou.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, premièrement, je dirais que la taxe pour tout celui qui fait une activité économique, la taxe doit être demandée par l'État. Malgré la façon dont l'État utilise ses membres pour demander la taxe. Moi, ce que je vais fustiger, c'est que pour connaître l'entrepreneuriat de ces journalistes, notre enseignement, comme l'ont dit mes prédécesseurs, notre enseignement doit être adapté. Et non théorique, parce qu'on privilégie souvent, on forme souvent les demandeurs d'emploi au lieu de former les créateurs d'emploi. Et vous allez voir, même les médias de chez nous, vous allez voir que même les médias présentent ceux qui font l'agriculture, ceux qui font la menuiserie comme les gens qui ont échoué. C'est pour ça, à côté de toutes les difficultés, monsieur le journaliste, moi, je dirais que toute la société congolaise doit vraiment faire de l'effort.
Et ça, c'est important ce que vous avez dit, Radjabou. Mais Radjabou, c'est important.
L'entrepreneuriat.
C'est important ce que vous avez dit. L'enseignement doit être adapté. Mais quand vous avez dit l'État, c'est son droit de pouvoir percevoir les taxes, mais vous l'avez dit, les agents doivent procéder de n'importe quelle manière. Non, il y a quand même des méthodes, des procédures pour percevoir la taxe. Mais la perception de la société au niveau des métiers que les gens choisissent, vous dites, quand on choisit par exemple l'agriculture ou bien la menuiserie et d'autres, on voit comme si les gens ont échoué dans la vie. Effectivement, c'est au niveau de la perception, au niveau de la société. On écoute rapidement ingénieur Batier en 30 secondes pour permettre à d'autres invités de pouvoir ramasser l'ensemble des préoccupations et conclure aussi cet échange. Ingénieur Batier, vous êtes à Kisangani? Ingénieur Batier, vous êtes avec nous? Voilà, des petits soucis des lignes, il est distrait sur la ligne. Le débat, c'est sur la page Facebook, comme je le disais, Patrick Ntola est en Bandaka, Germain Tabassé, Betao Endis Mushinda. Alors, tous estiment qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est plus l'encouragement des intelligences. Il faut commencer par lutter contre les systèmes politiques où on estime que les politiques prennent en otage l'ensemble du système et ne permettent pas aux autres de pouvoir émerger. Madame Thérèse Isaïe Kirongozi, on revient à vous. On a suivi, et vous avez eu, vous avez dit tout à l'heure toutes les difficultés pour être accompagné, mais ailleurs, on sollicite vos services. Mais est-ce que cela ne peut pas aujourd'hui être aussi une occasion de fuite d'intelligence des cerveaux, que les gens puissent partir de la RDC à développer leur capacité d'entrepreneur ailleurs, parce qu'il y a toutes les facilités où l'État leur permet de pouvoir le faire?
À qui la faute? Il faut se demander. Donc voilà, parce que je donne un exemple pour avoir... Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent leur survie. Donc, il faut aller là où des choses sont faciles pour vous. Mm-hmm. Donc, je donne un exemple. Aujourd'hui, il y a un mot, il y a un nom qu'on attend souvent dans nos médias aujourd'hui, des start-up. Les États-Unis, des pays développés, ont compris qu'il faut avoir plus de start-up. Qu'est-ce que start-up? C'est une idée peut-être d'une personne, comme nous avons fabriqué notre robot. Et il faut maintenant, pour que nous quittons start-up pour être une industrie, on doit avoir les incubateurs ou les accélérateurs du projet. Et c'est comme ça, aujourd'hui, le monde se développe dans l'esprit d'entrepreneuriat. Ben, je vais vous dire, ici, à Kinshasa ou au Congo, nous avons plusieurs start-up. Ce sont des jeunes gens qui se battent pour avoir une idée fixe. Il a même son prototype du projet. Il peut expliquer et bien... faciliter des choses, de vous dire, même il a même le business plan pour dire que non, dans mon projet,
voilà,
il faut investir comme ça.
Mais faudrait-il aujourd'hui que les projets aussi puissent résoudre un problème qui se pose au niveau de la société?
Mais bien sûr, quand on parle des startups, ce sont des projets qui vont résoudre des problèmes de la société. En passant, je peux vous dire une chose. Quand nous voyons de rivières de Kinshasa, on va voir que non, on peut faire de mini barrages, par exemple, pour la ville de Kinshasa. Est-ce qu'il faut toujours transporter de l'énergie de Inga jusqu'ici? C'est un point d'interrogation. Donc pour moi j'encourage plus de jeunes start-up et je leur dis de ne pas se décourager, parce que tout ce qu'on voulons faire, c'est de chercher comment qu'on arrive, même si on n'a pas de soutien tout de suite, tout le monde a des petits soucis, mais il ne faut pas te décourager pour te dire que non, ben écoutez, moi je dois abandonner.
Et ça aussi, c'est une dimension, c'est pourquoi aussi c'est important de pouvoir aider les jeunes, de les encadrer, les aider, canaliser leurs idées.
Ah oui, mais le meilleur incubateur de notre pays, il faut savoir, c'est le gouvernement congolais.
Qui est aussi les grands acheteurs.
Ah, bien sûr.
Alors voilà le message adressé. Nous pensons que ce soit les fonds de promotion de l'industrie, les ministères des petites et moyennes entreprises, ceux qui écoutent peuvent venir en aide à ceux qui ont des projets pour aider l'entrepreneuriat. Nous vous disons sincèrement merci, Madame Thérèse Isaïe Kirongozi, femme entrepreneur. Merci d'avoir accepté l'invitation des paroles aux auditeurs.
Merci à vous aussi, à toute l'équipe aussi.
Voilà, merci. Nous disons également merci à Nico Kalambay qui a assuré et les standards et la réalisation de ce magazine mis en onde par Jean-Noël Mokondo. Nous disons merci également à Martin Seboujango qui a assuré la supervision. Pierrot et la Meiji vous l'a présenté. Et on se retrouve le lundi pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie des Radio Capi et surtout plein succès aux entrepreneurs congolais, ceux-là qui ont des idées, des projets. On vous encourage. Merci, à la prochaine.